Shimon. Shimon. Shimon bar Younas. Désormais, tu es Kephas. En français, Kephas est un mot grec qui veut dire pierre, ou plutôt rocher. Shimon, désormais, tu seras un roc, et sur ce rocher, je bâtirai mon église. Mes frères, il est impossible d'imaginer la stupéfaction des disciples en entendant cela. Dans la Bible, en effet, qui donc est le rocher d'Israël, sinon Dieu, Yahweh, et lui seul? Quant à saint Paul, lorsqu'il parle du rocher spirituel, à qui pense-t-il sinon au Christ, et parce que le Christ est Dieu? Donc dans la Bible, c'est parfaitement clair. Le rocher est une image réservée à Dieu seul. Alors pourquoi Jésus a-t-il l'audace d'appliquer cette image à Pierre? Pourquoi, sinon, dans le but de lui confier sa propre autorité dans l'Église, dans le but de le légitimer, et afin que personne ne s'y trompe, Jésus ajoute donc deux promesses. Sur toi, Kephas, je bâtirai mon église. Et surtout, à toi, Kephas, je donnerai les clés du royaume des cieux. Mes frères, nous devrions être saisis d'un vertige devant des promesses aussi exorbitantes. Comment Jésus prétend donner et prétend bâtir sur cet homme dont il sait déjà qu'il va le trahir, et pas qu'une fois. Et en plus, à ce traître, il donne les clés de sa propre demeure. Oh, tout cela est si irrationnel, si inexplicable, si imprévu. C'est de l'ordre des miracles, de la stupeur devant un miracle. Car quand Jésus veut nous faire comprendre des choses qui sont inaccessibles à notre raisonnement, des choses qui nous dépassent, qui sont au-delà de notre imagination, que fait-il? L'Évangile en témoigne. Jésus fait soit des miracles, soit des promesses. C'est que les deux, miracles et promesses, ont un point commun capital. Ce sont des signes. Ces promesses, comme ces miracles, ce sont d'abord des signes proposés à notre intelligence pour qu'elle arrive, si possible, à concevoir un mystère divin qui est à jamais inaccessible à notre seule raison. Ce nom Kephas est donc un signe d'une nouvelle identité, certes, mais surtout d'un pouvoir nouveau que l'on pouvait croire réservé au Christ seul. Kephas, Pierre, devient ainsi non pas un simple symbole, ni même un simple représentant, mais un signe efficace de la promesse du Christ et de sa présence dans l'Église. Oui, efficace, puisqu'il reçoit la puissance personnelle de Jésus, qui ne pourrait appartenir qu'à lui seul, la puissance de construire son Église jusqu'à la fin des temps. Reconnaissons-le, Jésus veut que son Église soit édifiée, qu'elle s'élève sur le fondement inébranlable de la foi de Pierre. Et ceci, Jésus a été obligé de le dire expressément, car il était impossible, même à un fou sérieux, d'imaginer une telle chose. Jésus a voulu que la mission de Képhas et de ses successeurs prolonge son propre mystère, prolonge sa promesse de demeurer avec nous jusqu'à la fin. Jésus demeure parmi nous. Vous me direz, mais bien sûr que nous y croyons, il demeure parmi nous par son Esprit Saint que nous venons de recevoir. Oui, bien sûr, d'abord par l'Esprit Saint, mais aussi par des signes, car la nature humaine est ainsi faite qu'elle a un besoin permanent de signes qui lui parlent. Le premier signe, c'est l'Église, signe efficace du Christ, premier-né de toute créature. Le second signe, c'est l'Eucharistie, signe efficace du Christ, sauveur de toute l'humanité. Le troisième signe, c'est Képhas, c'est le pape, signe efficace, donc sacrement, du Christ, tête de l'Église. Voilà trois signes distincts qui nous sont donnés en permanence. Signes distincts mais inséparables, indispensables à notre vie de foi et insondables par notre esprit. Et c'est ainsi que nous devons regarder Képhas, le seul homme que Jésus ait interrogé trois fois sur son amour. Et nous connaissons la réponse de Képhas et l'émotion qui le gagne quand il parle de son amour pour Jésus. Pourtant, ce n'est pas lui, Képhas, qui a osé dire « Pour moi, vivre, c'est le Christ ». Celui qui a dit cela, c'est Shaoul de Tarse, l'ennemi acharné des chrétiens. Et pourtant, Dieu le savait, un homme très droit. Une fois saisi par le Christ, ayant lui aussi reçu un nom nouveau, Shaoul s'est entièrement retourné. Désormais, Paul n'a voulu aimer que ce que Jésus a lui-même aimé. Mais Jésus, qu'a-t-il aimé ? Ouvre l'Évangile et lis à n'importe quelle page. Jésus a aimé la vérité et la croix et l'Église. La vérité, car elle seule libère, la croix, sa croix, car elle seule sauve, et l'Église, bien sûr, car elle est son corps. C'est pourquoi, à son tour, Paul a aimé la vérité, la croix et l'Église, et il les a aimés à la façon de Jésus, c'est-à-dire jusqu'à en mourir. Après cette brutale rencontre qu'il a faite sur la route de Damas, aussitôt qu'il a eu recouvré la vue, Paul a couru les synagogues afin de proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Cependant, très vite, les synagogues et les Juifs ne lui suffisent pas à Paul de Tarse. N'est-ce pas au loin, chez les païens les plus lointains, qu'il a été envoyé par Jésus ? Alors il ne se retient plus, il y va à fond, de l'agora d'Athènes jusqu'au forum de Rome, en passant par les innombrables voyages qu'il nous rapporte. À chaque fois, il est bouleversé au spectacle de ces villes livrées à l'idolâtrie et à la débauche. Il est bouleversé, pourquoi ? À cause de son amour du Christ qu'il veut prêcher partout et établir partout. Alors, naturellement, dans cette joie qu'il embrasse, cette joie de porter l'Évangile, il ne s'épargne aucun effort, aucune souffrance, ni même sa vie, tant il aime cette croix qui seule lui permet de suivre Jésus partout où il va. Et enfin, Paul a aimé l'Église. Ses lettres débordent tellement de charité, au point que parfois on se demande s'il n'a pas un peu trop compris, s'il ne pense pas que le Seigneur l'a établi gardien sur toute l'Église. Ce qui explique d'ailleurs ces quelques tacles virils avec saint Paul, avec saint Pierre, qui nous sont rapportés dans les Actes des Apôtres. La vérité, la croix, l'Église. Mes frères, si j'étais ailleurs que dans cette Église, je devrais m'arrêter ici. Je devrais m'arrêter de crainte de vous paraître arrogant si je continuais. Heureusement, la Providence fait bien les choses. Avec vous, il n'y a pas de risque de prendre un dominicain pour arrogant. Parce que vous nous connaissez depuis longtemps, vous nous subissez depuis longtemps, et vous devinez ce que je vais dire maintenant. La vérité, la croix, l'Église sont aussi trois passions dominicaines. Notre devise, Veritas. Notre fondateur, sur la plus belle fresque de Fra Angelico, on le voit saisir, embrasser, étreindre la croix de Jésus, sanglante de son sang, et le faire avec un regard inexprimable. Et puis, c'est lui qui a voulu fonder cet ordre, in medio ecclesiae, au cœur de l'Église. Aussi, mes frères, quand je dis mes frères, je ne m'adresse pas d'abord à ces rouges à gauche, mais je parle à nous tous. Osons demander ensemble la grâce de Jésus qui transforme les pécheurs, les lâches, les persécuteurs en amis du Christ, qui leur donne de désirer vivre dans sa vérité, qui leur donne de vouloir saisir sa croix et qui leur donne de désirer plus que tout servir son Église.